Bonsoir et bienvenue pour cette dernière séance du cycle qui a été confié à Bernard Eisenschitz dans la série des regards critiques. Et je profite que j'ai le micro parce que je ne suis pas sûre de le reprendre à la fin de la séance pour remercier chaleureusement Bernard Eisenschitz d'avoir accepté notre proposition un peu difficile. J'aime beaucoup le sous-titre « Fragments pour une histoire fictive ». Je crois que c'est exactement ce qu'il nous a proposé au cours de ces 6 séances, c'est-à-dire un parcours à travers des films rares et avec une parfaite érudition. Et donc nous avons beaucoup apprécié. Donc on a une séance un peu supplémentaire puisque c'était celle du mois de décembre qui avait été annulée par la grève et que nous avons reprogrammée aujourd'hui. Et puisque j'ai le micro, je continue à vous présenter donc les regards critiques 5 qui auront lieu à partir du mois de mai. Donc cette fois-ci, nous avons confié cet exercice à Carole Desbarra, qui était l'ancienne directrice des études de la FEMIS et qui s'est pliée aussi à cet exercice en choisissant des films documentaires aussi, ce qui était pour elle un peu particulier. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut dire ? Le relais. Voilà. Le relais sera passé après cette séance. Et donc je laisse la parole à Bernard Eisenschitz pour le théâtre des opérations autour de la guerre et de 2 films rares aussi. Voilà. Donc.
Merci. Je suis pas très à l'aise dans cette salle. D'abord, je suis de l'autre côté. Je suis dans l'autre axe que les dernières fois. C'est un effet étrange parce que la séance est un peu déplacée. En fait, le théâtre des opérations, c'est plus tellement mon titre. Mon titre, ça aurait plutôt été pli dans le temps. Et puis, finalement, ainsi soit-il. Hein. En fait, comme vous le savez, j'avais pas prévu de terminer cette programmation sur cette séance. Bon, même si la programmation n'était pas une progression de fer, il n'y avait pas d'intention, il n'y avait pas de point d'orgue ni d'accord final. Il y avait une organisation et cette séance devait plutôt relancer des questionnements que conclure. Voilà, enfin, ainsi soit-il. Je pensais que ces 2 films répondraient d'une certaine manière au premier film de la programmation à La guerre d'un seul homme d'Edgardo Cozzarinsky. Mais bon, ça n'est pas le cas, ou c'est peut-être le cas pour vous qui avez vu le film d'Edgardo Cozzarinsky. Peu importe. Mais en tout cas, bon, il est en effet, une fois de plus, question de l'histoire et du temps. Et bon, cette fois, c'est un temps. L'idée, c'était ça. L'idée d'origine, j'avais appelé ça le théâtre des opérations, je ne sais pas pourquoi, mais c'était plutôt les plis dans le temps, au sens de Cocteau dans la machine infernale, ou Anubis dit au Sphinx, à moins que ça soit le contraire, imaginez que vous pliez cette étoffe et que vous la percez d'une épingle, et une fois que vous retirez l'épingle et vous lissez l'étoffe de manière à ce que les plis ne soient plus visibles, est-ce que le premier nigaud venu sera capable de percevoir qu'ils ont tous été faits en une seule fois? C'était ça le point de départ. Et puis l'autre, c'était le temps out of joint, un temps désarticulé. Désarticulé, c'est la phrase de Hamlet qui est le titre d'un roman de Philip Dick que Robert Louis avait publié dans sa collection Dimension chez Calman Levy. Time out of joint, le temps désarticulé, et Philip Dick, c'est un peu étrange de parler de Philip Dick dans un programme de documentaire, mais Philip Dick en connaissait quelque chose, connaissait un bout sur le temps, et en particulier, il avait fait un roman qui s'appelle Le Maître du Haut Château et qui est donné aujourd'hui pour un modèle de ce qu'on appelle l'Uchronie. Et c'est de ça qui va être question aujourd'hui. C'est de ça, il sera question de cinéma, mais c'est ça le point commun entre les 2 films aujourd'hui. Ce sont 2 uchronies, c'est-à-dire des détours, des déviations de l'histoire. des moments où l'histoire qui devrait suivre son cours, que son, un cours que nous connaissons ou un cours que nous pressentons, dont nous sommes sûrs, dévie. Alors, des uchronies, on en trouve, en effet, le maître du Haut-Château qui suppose que le Reich a gagné la guerre et qu'il est qu'un écrivain prépare une fiction dans laquelle le Reich aurait été vaincu, est le modèle de l'Uchronie, mais il y en a beaucoup, surtout dans des périodes de fracture de l'histoire. C'est à ce moment que les écrivains, les auteurs éprouvent le besoin d'imaginer une d'autres possibilités pour l'histoire. Alors le modèle, bien qu'on n'en parle pas souvent, sous cet aspect-là, mais l'Uchronie évidente, idéale, c'est le grand dictateur de Chaplin, où tout à coup vous voyez que la Toménia, qu'un pays qui menace tous les autres, devient tout à coup le grand dictateur tombe à l'eau et que le petit barbier prend sa place et que la Toménia, au lieu d'envahir l'Austerlitz, devient un pays pacifiste dans un discours final qui est d'ailleurs un moment de cinéma expérimental et d'un moment de documentaire très très étonnant où la scène est proprement dans un film et nulle part ailleurs. Et le fait que ce film ait été fait entre 38 et 40 rend la chose encore plus étonnante, et d'ailleurs trop étonnante peut-être même pour les spectateurs du moment, et plus mais d'autant plus pour nous. Le Grand Dictateur était loin d'être le seul film qui suppose ces déviations de l'histoire, puisqu'il y a un film tiré d'un... Enfin bon, il y en a beaucoup. Ça serait le sujet d'une autre conférence, mais il y a plusieurs films, en particulier en Union soviétique, un certain nombre de films imaginaient l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie ou par le Japon militariste, et supposaient naturellement que tout le peuple soviétique se dressait comme un seul homme pour repousser les envahisseurs. Il y a là-dessus un passage, je ne peux pas résister quand même à vous y renvoyer. Il y a un passage absolument hilarant dans les mémoires de De Gaulle où il raconte comment Staline l'invite un soir à voir un de ses films comme à la parade, l'armée rouge renvoie immédiatement les envahisseurs chez eux. Et les réflexions de Staline et celles de De Gaulle valent leur pesant d'or. Il y a également un film tchèque. Après je m'arrête. Il y a également un film tchèque de 38 qui s'appelle La maladie blanche et qui est tiré d'une pièce de Karel Čapek dans lequel un dictateur s'oppose à un médecin qui a inventé une solution pour guérir une peste qui touche tous les hommes de plus de 30 ans, et le dictateur meurt en criant « Vive la mort !» et le médecin retourne le pays, se fait lyncher, mais le pays se retourne vers une vision pacifiste. Un film de 38 qui est sorti après la mort de Karel Čapek. Son réalisateur est allé faire des petits films de série Z à Hollywood, et la chose curieuse, c'est qu'en France il est sorti sous le titre La Grande Solution, en réponse directe à La Grande Illusion. Voilà. Donc il y en a eu beaucoup à cette époque-là, et ça mérite donc de se demander pourquoi nous nous retrouvons avec des films dans un programme de non-fiction en principe, mais un programme qui propose que le documentaire n'existe pas, pour montrer deux films. Bon, quelles sont les conditions pour ces deux uchronies? L'une, c'est qu'on pose la question au présent. J'ai écarté même s'ils avaient eu la possibilité d'être qualifiés comme non-fiction, j'ai écarté des films faits après coup. Donc que la question soit posée au présent. Donc ces moments, fin de la Première Guerre mondiale, il y a un film qui s'appelle L'invasion de l'Angleterre, par exemple, qui a été retrouvé de manière assez dans justice poétique par Kevin Brownlow, qui avait fait un film qui s'appelait En Angleterre occupée. Il y a eu un film de Thomas Innes qui s'appelait Civilisation. Bon, et puis du début de la guerre mondiale dont je vous ai parlé, il y en a eu donc en Tchécoslovaquie, en Union soviétique, aux États-Unis aussi, enfin, pas seulement d'ailleurs le dictateur, et d'autres, et bien sûr Bien sûr, d'une certaine manière, on peut dire que Chasse à l'homme de Fritz Lang est aussi une uchronie, puisque, comme disait Fuller, il faudrait qu'il appuie sur la détente quand Walter Pidgeon met en joue Hitler sur son balcon. Fuller disait, il faut absolument qu'il appuie sur la détente, mais on sait bien malgré tout qu'il n'a pas appuyé sur la détente, donc s'il appuie sur la détente, il n'y a pas de film. Évidemment, il y a un film. Et l'autre question posée, l'autre contrainte que je m'étais donnée, parce qu'elle est simplement dans le jeu du programme, c'est que ces films aient une raison d'être ou une fiche, une pièce d'identité documentaire, d'une certaine manière. Donc nous allons commencer par un film de 42-43 qui relève en principe de l'école documentaire anglaise, cette fameuse école documentaire anglaise peu vue et peu visible ici, mais qui est en fait un film d'auteur. La curiosité, enfin bon, comment définir cette école documentaire, comment définir l'histoire du documentaire à partir du moment où on admet que la lignée Flaherty a dominé l'histoire du documentaire. On peut considérer, bon, la vérité canonique du documentaire, la leçon que nous connaissons tous, c'est que le père du documentaire, le terme et la chose, c'est Robert Flaherty, et nous trouvons le lien avec l'école documentaire britannique dans le fait que l'école documentaire britannique a été fondée par un nommé John Grierson et que John Grierson a fait appel à Flaherty en 1932, 33, 34, pour en 32, je pense, pour réaliser un film sur la Grande-Bretagne industrielle, film qui s'appelle Industrial Britain. À la différence des autres films de Flaherty, c'est plus un poème cinématographique que l'histoire d'une famille. Mais toujours est-il que Flaherty est arrivé en Grande-Bretagne, irlandais de naissance, Flaherty est arrivé en Grande-Bretagne et par sa personnalité très très forte a été une influence incontournable, comme on dit, sur l'école documentaire britannique. Pourquoi ? Parce que, en quoi plus exactement, dans le sens que les moyens de la fiction étaient utilisés pour produire quelque chose qu'on prétendait être une observation non fictionnelle de la vie. Jusque-là, tout va bien, puisqu'après tout, nous savons bien qu'il y a peu de documentaires qui ne relèvent pas, à un moment ou à un autre, d'une mise en scène, ne serait-ce que le cadre choisi pour filmer les ouvriers qui sortent des usines lumière, mais surtout que cette utilisation des moyens de la mise en scène du film de fiction était dissimulé chez Flaherty. Il a fallu des années pour qu'on sache que le couple de Nanook n'était pas du tout un couple, que la famille n'était pas du tout une famille, que l'enfant de Louisiana Story n'était pas le fils de son père, etc. Et l'effacement des traces du documentaire a été pendant très longtemps une sorte d'obligation, certainement dans le cas de l'école documentaire britannique, ce qui permet de faire d'ailleurs un petit détour par les soviétiques, puisque les Britanniques avaient deux modèles qui étaient évidemment d'un côté Flaherty et de l'autre Dzigavertov, où l'école documentaire soviétique et en particulier Dzigavertov, qui est venu présenter Enthousiasme au début des années 30 à Londres, là où Chaplin l'a vu. Donc d'une part des sortes de poèmes cinématographiques, ce que faisait Vertov, enfin, ou en tout cas ce que les Britanniques ont cru que faisait Vertov, et de l'autre, des documentaires qui dissimulaient leur manière de faire. Au point que, après la fin de l'Union soviétique, les Russes, qui n'avaient rien de plus pressé que de se débarrasser de tout leur héritage culturel soviétique, ont complètement écarté Dzigavertov au profit et ont découvert un documentariste soviétique dont on m'a dit là-bas, tu vas voir, il y a d'un côté l'école Vertov et de l'autre côté il y a la tendance Flaherty, et ils ont ressorti un documentariste qui s'appelle Vladimir Erofeyev, homme extrêmement honorable, mais qui n'avait rien à voir avec Flaherty dans la mesure où ses films n'avaient pas le moindre personnage, c'est des films purement contemplatifs sur des lieux. Mais pour les soviétiques, l'idée de la tendance Flaherty, c'était l'idée d'une non-intervention, en tout cas de feindre une non-intervention du cinéaste et de regarder, de contempler, de pure contemplation, et d'utiliser l'héritage de Vertov uniquement dans la mesure où ça pouvait permettre de tenir un discours qui était un discours du cinéaste, mais un discours strictement littéraire. L'école britannique a fait appel à des gens comme Auden pour écrire ses commentaires, et on a beaucoup admiré les films de Basil Wright et de Harry Watt, parce que c'était des films qui étaient soutenus par un discours soit littéraire, soit musical, mais qui restait un discours totalement littéraire ou musical, illustré par les images. Voilà, donc il y a Night Mail, ce sont des films où en aucun cas on peut imaginer que la fabrication du film s'inscrive dans le film même. On est très très loin de ce qu'a pu devenir le film de non-fiction qui avouait son origine fictionnelle, ou en tout cas qui avouait sa dimension fictionnelle, pour citer un seul nom, Jean Rouch, qui n'a pas été suffisamment cité dans les dernières séances, et je m'en excuse. Voilà, Jennings, c'est l'inverse. Le film de Jennings que nous allons voir, c'est précisément l'inverse, ce sont les moyens du documentaire mis au service d'une fiction déclarée comme telle, avec tout l'effet d'étrangement et tout l'effet de variation de point de vue que ça peut impliquer. Donc on est du coup très très loin du paradis perdu, des bons sauvages ou de l'Angleterre unie. Que représente Flaherty d'un côté, l'école documentaire britannique de l'autre. Ce qui ne veut pas dire que Jennings, bon, il faut peut-être dire un peu qui était Jennings, parce qu'il y a eu une rétrospective à la Cinémathèque française il y a un an, mais apparemment pas mal d'entre vous n'avez pas suivi cette rétrospective qui était assez complète, très très passionnante dans son aspect d'intégralité, mais précisément, j'ai choisi un film qui, quoique reconnu dans le canon de Humphrey Jennings, est absolument atypique, n'est pas typique pour ceux qui ont écrit dessus. En particulier, disons, les meilleurs qui ont écrit sur Jennings, disons, Lindsay Anderson en 54, Hartmut Bitomsky dans les années... Hartmut Bitomsky, bon, pour parler de cinéaste, Hartmut Bitomsky a écrit un des meilleurs articles sur Jennings en 75 dans Film Critique. Pour eux, les grands films de Jennings ne sont pas les deux films qui m'intéressent le plus. Bon, l'un qui est vraiment l'un que je n'ai pas osé vous montrer de peur de me faire lyncher pour avoir vraiment trop trahi la perspective documentaire, et l'autre celui-ci. Bon, voilà. Donc voilà, pour Jennings, il y a... Bon, Jennings, alors allons-y. Sur Jennings, j'essaye de faire vite pour ceux d'entre vous qui avaient suivi la rétrospective de la Cinémathèque. Humphrey Jennings, dont est né en 1907, est mort en 1950, donc très, très jeune, mort d'un accident en repérage en Grèce. Au cours des années 30, il a beaucoup écrit, il a beaucoup peint, il a beaucoup organisé. Ces articles, ces textes critiques qui sont la partie la plus mince de sa production, parlent de littérature, de peinture, d'art plastique, du surréalisme, des mouvements artistiques de l'époque, jamais de cinéma. Le seul texte sur le cinéma qu'on ait retrouvé de lui, c'est un texte sur les tout premiers films en couleur, sur l'arrivée du Technicolor en 1934. Et rien sur le cinéma jusqu'à la fin des années 30. Il a été extrêmement important dans l'organisation d'une exposition surréaliste à Londres dans les années 30, et il a été surtout une cheville ouvrière du mouvement qui s'appelait Mass Observation, l'observation de masse, qui était un mouvement sociologique dont le nom explique à peu près ce qu'il veut dire, au milieu des années 30. Et dans les années 30, il a été engagé par l'organisation gouvernementale du cinéma, qui dépendait à l'époque de la poste britannique. Et il a fait quelques films, il a fait des décors, il s'est occupé des couleurs pour des films de Len Ly, donc auteur essentiellement d'animation, précurseur de Norman McLaren. Ses premiers vrais films datent de 1939, et son premier film s'appelle Spare Time, Temps de loisir, qui est précisément un film qui résume un petit peu ce que pouvait être le Mass Observation, un film collectiviste sur la manière, sans commentaire je crois, sur la manière dont les Anglais occupent leur temps de hors du travail. Et Jennings a été pratiquement englouti par cette organisation gouvernementale de cinéma au moment de la guerre, et on peut imaginer que la guerre a été pour lui le déclencheur d'une unité du monde, d'une unité certainement de la culture britannique, et d'une unité du monde qui allait lui permettre de faire, dans un esprit de résistance à la menace fasciste, ses grands films, ses plus beaux films. Que dire, il écrit à sa femme, on n'a pas de, même au moment de cette carrière très très rapide, donc qui commence pratiquement en 39 et qui continue avec une production extrêmement intense entre 40 et 45, et qui entre 45 et 50 s'espace avec quelques films très 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 bouleversants, mais plus l'idée d'une production de cinéma aussi nette que ça. Il écrit à sa femme, si je le retrouve, ça serait assez beau. Les seules traces qu'on a de sa réflexion sur le cinéma sont des traces liées à sa correspondance avec sa femme qu'il avait envoyée au début de la guerre, qu'il a envoyée à New York avec ses deux enfants, avec ses deux filles. Il n'y a pas de texte critique, il n'y a pas de projet programmatique pour ses films. Il y a des scénarios, mais les scénarios sont des descriptions. Et il écrit à sa femme, donc juste au moment 29 mai 42, donc c'est le moment où la résistance tchèque exécute le bourreau de Prague, Reinhard Heydrich, et qui va être le point de départ du film que nous allons voir. Il écrit à sa femme, « Je lis les mémoires de Herzen, ex-aristocrate né à Moscou en 1812, devenu ami de Humboldt et a été exilé en Sibérie. Une sorte de lien entre la Russie de guerre et paix et la Cerisaie, parallèlement au journal de Stendhal. Très difficile en ce moment de lire quoi que ce soit qui est une histoire, nécessité d'êtres humains réels. » Et se prépare à la fois dans la tête de, dans la tête de Jennings, qui termine un film sur les pompiers de Londres pendant le Blitz, Fires Were Started, et qui se lance à ce moment dans un grand projet dont je vais dire deux mots ensuite. Il y a, en troisième lieu, il va y avoir le choc de l'exécution de Heydrich, dont vous savez qu'elle a donné lieu à plusieurs fictions américaines, en particulier Les bourreaux meurent aussi, bien sûr, de Fritz Lang, le massacre du village de Lidice, représentant les deux faces de la guerre, c'est-à-dire l'existence d'une résistance capable de répondre à l'oppression nazie et, d'autre part, la violence de la répression. Donc c'est ça le sujet du film qui se développe chez Jennings est plutôt lié à l'idée de la répression, à l'idée de la possibilité d'une résistance, mais d'une résistance intérieure. On sait que l'exécution de Heydrich a été préparée depuis Londres par un commando. Ce qui intéresse Jennings, c'est la possibilité d'une résistance populaire. C'est la possibilité de retrouver, des racines populaire dans une civilisation industrielle où il semblerait que la dimension populaire soit appelée à disparaître. Donc il conçoit en 1942, donc au printemps 1942, il conçoit deux choses. L'un, c'est ce prochain film qui serait un film en hommage au martyr de Lidice, à un village martyr de Lidice, et l'autre, c'est un livre qui va être un livre sur la révolution industrielle. Mais en bon surréaliste, ou bien marqué par le surréalisme, il conçoit ce livre comme un livre de montage et il le présente comme une histoire imaginative de la révolution industrielle. Dans la préface qu'il a écrite, il insiste sur deux facteurs, l'imagination, ce qui veut dire que ce qu'il présente ce sont des images, et le fait qu'il présente, je ne décris ni n'analyse, parce que l'imagination est une fonction de l'homme dont les traces sont plus difficiles à traiter que les faits, les événements et les idées dont l'histoire est généralement construite. Je présente par le moyen de ce que j'appelle images. Les images dans ce livre, ce sont des citations. C'est un livre composé de près de 400 longs textes choisis par Jennings pendant toutes ces années. Ce livre qu'il appelle Pandemonium n'a jamais été terminé. Et il a été publié, environ 20 ans après la mort de Jennings, sous cette forme de montage qui est une forme de montage de texte long. C'est aussi une conception différente de celle de Walter Benjamin, auquel on pense évidemment, on pense aussitôt au livre des passages, mais on n'est pas là-dedans. On est au contraire dans une décision de laisser des textes avoir leur propre respiration. Voilà. Et dans le même temps, arrive cette nouvelle qui bouge beaucoup. C'est peut-être la nouvelle la plus importante pour les pays libres avant le moment de Stalingrad, avant le moment où tout à coup l'avance nazie va être arrêtée à Stalingrad. C'est donc l'exécution par la résistance d'un haut dignitaire nazi. Jennings, on lui apporte le sujet. C'est une suggestion. Il travaille dans un organisme de production gouvernementale, donc il peut proposer des sujets, mais ces sujets peuvent également lui être proposés. Arrive simultanément deux choses. Une proposition du gouvernement tchèque en exil de faire un film sur Lidice et un texte dans une revue anglaise ou dans une revue tchèque en anglais ou dans une revue de l'émigration, je ne sais plus, un texte d'un cinéaste, Jiří Weiss, cinéaste connu qui a participé donc comme un peu comme doyen au jeune cinéma tchèque dans les années 60, je crois qu'il a fait un film qui s'appelle Le piège à loup. Enfin, Jiří Weiss, donc, qui s'occupe, qui est à Londres, écrit pour demander pourquoi le cinéma documentaire montre essentiellement les grands personnages de la résistance au nazisme, donc les dirigeants, les anciens chefs d'État, etc. Et pourquoi ils ne montrent pas les peuples. Alors, Jiří Weiss s'adresse l'objection évidente qu'on ne peut pas tourner dans les pays occupés, et il répond à cette objection par l'argument non moins évident qu'on sait très bien que les documentaires de guerre qui ont été faits sont tous en grande partie mis en scène et que ça ne devrait pas être un obstacle. Voilà, donc le sujet vient d'une demande des Tchèques en exil de faire un film sur l'Yiddish. Que se passe-t-il à ce moment pour Jennings? Comment faire un film sur l'Yiddish qui ne soit pas une reconstitution à la manière dont le cinéma américain le fait, qui puisse être aussi une manière de dire à l'Angleterre, nous sommes ici, nous pourrions être ici. Que se passe-t-il? Et Jennings, passionné par le monde du travail, passionné par la question de l'Yiddish, pas simplement un village martyr, mais un village minier, se rend au Pays de Galles avec l'idée de trouver une relation entre le village minier de l'Yiddish et un village minier au Pays de Galles. Ce qu'il trouve très très vite au cours de ses repérages, c'est un village dans lequel, comme il écrit à sa femme, voilà, l'idée c'est ça. Le film sur les nouvelles lettres à sa femme, 28 juillet, donc deux mois plus tard. Je vais chercher quelque chose d'autre. Ça remonte loin aussi. Je découvre de plus que jamais, que le problème principal dans tous les temps est de faire raccorder tous les mondes qui existent ensemble. Le monde de la guerre au jour le jour, le monde du passé, Suffolk, Cambridge, les grands paysages de l'Union soviétique et des USA, la riche nostalgie de la France et de l'Italie, la lutte constante de la poésie et de l'économie, les exigences tour à tour de l'homme et de la nature, les rappels soudains à long terme depuis la Grèce et depuis la Chine, comment tout cela peut-il se raccorder? Passer rapidement, facilement de Tobrouk à Courbet, de la lumière d'un instant du soleil à 6 heures du soir à la politique locale des vallées du Pays de Galles, Handel, Moscou, le Vermont. On est seul à pouvoir combiner et à ne pas séparer. Voilà, Vermont, où se trouve sa femme et d'où elle lui écrit. Donc l'idée est une idée unificatrice du monde. Très vite, il trouve ce village donc au Pays de Galles, d'où il écrit. Son idée donc devient très très vite l'idée d'une reconstitution. Dans une communauté de mineurs au Pays de Galles, mais ce qui est plus important en vérité que cela, ce qui est plus important que cela en vérité, c'est d'être proche de cette communauté et de vivre et d'y travailler pour ce qui est le quotidien. Je n'aurais jamais cru vivre pour voir les principes, les honnêtes principes chrétiens et communistes mis en acte. Quotidiennement, comme quelque chose d'évident, par un grand nombre de Britanniques, je ne dirais pas d'Anglais, de gens qui vivent ensemble. Pas seulement l'honnêteté, la culture, les manières, le socialisme pratique, mais l'amour véritable, la passion et tendresse, comme camaraderie et cœur combinés. C'est à partir de ces gens qu'on comprend véritablement l'armée modèle de Cromwell et les défenseurs de beaucoup d'endroits au début de la révolution industrielle. Les gens ici sont véritablement des figures de Tolstoï, ou c'est peut-être un endroit où le lire des steppes de Tourguéniev aurait pu se dérouler. Nous les photographions aussi honnêtement que possible, pas comme qu'elle était verte ma vallée, trop théâtrale, ou les raisins de la colère, trop misérabilistes. Personne ne semble avoir mis l'accent jusqu'à présent sur la double image de conditions pourries et d'une véritable joie de vivre, parallèle peut-être avec la ville et le pays, le travailleur et le paysan, le marteau et la faucille. Voilà. Voilà ce qui vous donne un peu une idée de ce qu'est le film dans l'intention de Jennings. Le mieux est peut-être de montrer le film. Alors, comme nous avons au cours de ces 6 séances essayé à peu près toutes les manières possibles de traduire, que ce soit sous-titrage, distribuer un papier à l'entrée, traduction simultanée, on va inventer autre chose cette fois-ci. Donc, je vais vous dire au début, puisqu'il n'y a pas de, surprise de type vertigo dans ce film, je vais vous préciser ce qui est dit dans le film. C'est rendu d'autant plus facile qu'une grande partie du film est parlée en gallois. Donc le gallois était destiné à fournir aux spectateurs anglais une langue incompréhensible qui allait peut-être le rapprocher de l'idée du tchèque. Une langue qu'il ne comprenait pas, mais on savait, le spectateur anglais savait qu'il s'agissait de gallois, bien sûr, puisque le gallois avait droit de cité, était enseigné à l'école au Pays de Galles. Donc je vous lis simplement les intertitres et je vous résume ce qui n'est pas compréhensible, en dehors de cela dans le film. À part ça, je pense que vous n'aurez pas de mal à le voir. Donc le générique, le village silencieux, l'histoire des hommes de Lidice qui, dans l'obscurité fasciste, ont allumé une lampe qui ne sera jamais éteinte, produite par le Crown Film Unit, donc le production gouvernementale dépendant du ministère de l'Information, avec la collaboration du ministère tchécoslovaque des Affaires étrangères, de la Fédération des mineurs de Galles du Sud et de la population de Swansea et des vallées de Swansea et de Dulles. Donc, le village de Lidice, carton d'introduction. Le village de Lidice en Tchécoslovaquie était un village de mineurs. Ce film, en son honneur, a été fait dans une communauté de mineurs similaire au Pays de Galles, le village de Cwmgyd. La première partie du film est presque entièrement parlée en gallois, à part quelques échanges dans une réunion syndicale. Elle se termine avec un carton qui dit « Telle est la vie à Cwmgyd dans cette vallée occidentale du Pays de Galles, et telle était la vie à Lidice jusqu'à l'arrivée du fascisme. » À partir de là, on voit à plusieurs reprises une voiture avec un haut-parleur, une voiture du service de propagande de l'occupation allemande avec un haut-parleur. C'est tout ce qu'on voit des nazis dans le film. Donc cette voiture, d'abord en allemand puis en anglais avec fort accent allemand, annonce que le pays de Galles du sud et de l'ouest sont désormais sous la protection du Grand Reich allemand et que le nouveau Reichsprotektor est le SS-Obergruppenführer Heydrich, qui appelle à la coopération loyale et à la renaissance du pays. Ensuite, premiers incidents de résistance, mise à l'écart des lois existantes, et on passe à des lois d'exception dans lesquelles il n'y a que trois sentences possibles: confiscation des biens, remise à la police secrète d'État et sentence de mort. Ensuite, un petit dialogue en anglais entre deux syndicalistes qui décident la grève. Puis, de nouveau, menace du haut-parleur, de la voiture à haut-parleur, discussion entre les habitants, Nouvelle menace, premiers actes de résistance, scène où l'institutrice informe ses élèves qu'elle n'a plus le droit de faire les cours en gallois et elle les incite à se souvenir du gallois, à parler la langue à la maison, à parler la langue avec leurs amis et de ne pas oublier leurs chansons, leurs hymnes, leurs poèmes. Ensuite, résistance, impression de tract, et annonce d'une tentative de meurtre, annonce toujours par le haut-parleur d'une tentative de meurtre contre le Reichsprotektor Heydrich et début de la répression, puis une suite d'annonces du haut-parleur se centrant la répression, annonçant d'abord la mort de Heydrich, puis des indications, des indices donnant le village comme une des sources, comme une des origines d'où est parti l'attentat contre Heydrich, menace, puis regroupement de la population et exécution de masse, suivi par un intertitre final de cette deuxième partie, la plus longue du film. Tous les hommes adultes du village ont été fusillés, les femmes ont été envoyées en camp de concentration, les enfants ont été remis aux autorités compétentes, le village a été rasé et le nom de la communauté a été oblitéré. Intertitre nouveau, c'est ce que les nazis ont fait au village de Lidice en Tchécoslovaquie, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Et un leader syndical termine en expliquant, en faisant un appel à la solidarité de la classe ouvrière de tous les pays, appel qui était assez étonnant dans les films gouvernementaux anglais pour l'époque, et terminant par un appel à la lutte pour que les hommes de Lidice ne soient pas morts en vain. Voilà, donc je pense qu'avec ces éléments et avec votre connaissance des éléments historiques de cette époque, il est préférable de voir le film sans traduction simultanée, qui est toujours quelque peu embarrassante. Donc je vous laisse voir le film qui dure 36 minutes et nous nous retrouvons après. Pour le film précédent de Humphrey Jennings s'appelait Fires Were Started, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un film sur l'action des pompiers londoniens dans le Blitz, et Grierson, d'après Bitomsky, Grierson avait beaucoup insisté pour que Jennings utilise des acteurs. Je suis pas sûr que l'histoire soit vraie puisque je crois que Grierson à l'époque était au Canada, mais si ce n'était pas Grierson, c'était son frère. Et on voit dans Fires Were Started comme ici ce que peuvent être des personnages réels qui ne jouent pas un rôle ou qui ne jouent pas des actions professionnelles qu'ils ne pratiquent plus, comme chez Flaherty par exemple. On sait que chez Flaherty, aussi bien dans Nanook que dans L'Homme d'Aran, Flaherty a demandé à ses interprètes de reconstituer des chasses et des pêches qu'ils avaient abandonnées depuis longtemps. L'idée ici étant plutôt, l'idée chez Jennings étant à l'opposé, c'est-à-dire d'utiliser les moments quotidiens, les gestes quotidiens pour en faire une fiction. Bitomsky dit ça assez joliment, je crois. Il dit, à propos de Fires Were Started, Fires Were Started est un documentaire et un film de fiction. Comment les deux peuvent-ils se concilier ? Non-fiction, des éléments qui sont là, se produisent sans intervention de celui qui les regarde. Fiction, tout se met en place comme on en a besoin. Le film de fiction plie le monde jusqu'à ce qu'il s'accorde à son histoire, et le documentaire parle avec le monde qui est rebelle au dialogue. On peut dire, les histoires de fiction sont la construction d'une réalité qui n'existe pas. On peut dire, les histoires de fiction sont une reconstitution de la réalité, mais seulement telle qu'on peut l'imaginer, une reconstitution qui est éloignée de la réalité, et on peut dire les documentaires reconstruisent la réalité telle qu'on ne peut pas l'imaginer. Et en effet, les moments que Jennings ne peut pas imaginer sont ceux qui appellent le plus la fiction, enfin ceux dont il a besoin sont ceux qui appellent le plus la fiction et ceux sur lesquels il se refuse à aller au-delà d'une mise en scène des gestes quotidiens, que ce soit sur les éléments de répression, que ce soit dans son refus de montrer la mort des partisans, que ce soit dans sa représentation de la répression de la manière la plus dédramatisée, voire la plus plate possible, c'est-à-dire uniquement par des plans de radio. Dans le film suivant, il va complètement abandonner l'idée d'un documentaire. C'est d'ailleurs pour ça que ce film est considéré en général comme une grave erreur dans son parcours, et faire un film qui est l'histoire du parcours d'une chanson de Lili Marlène. Donc le film s'appelle La véritable histoire de Lili Marlène, et on ne suit pas ni un personnage ni un thème, on suit une chanson à travers sa naissance à Hambourg, son officialisation, sa popularisation à l'intérieur de l'Allemagne, le transfert de la chanson à travers la campagne d'Afrique d'une chanson allemande nazie à une chanson reprise par les Anglais, puis à une chanson de résistance, et la possibilité d'une chanson populaire dans une Angleterre qu'on voit revenue à la paix dans un film qui a été tourné en 43, donc deux ans avant de la fin de la guerre. Donc ce qui est intéressant dans les deux cas, et ce qui est intéressant en particulier dans celui-là, dans la mesure où il est entièrement à quelques instants près entièrement fondé sur des gestes quotidiens, enfin c'est un film qui est peut-être moins mis en scène que Farbik, disons, c'est qui évidemment tout indique qu'on est dans une mise en scène, tout indique qu'on est et essentiellement les différents statuts de réalité de ce qu'on voit, puisqu'on est dans un début qui est entièrement un documentaire. On ne sait pas exactement ce qu'on est en train de voir, mais il apparaît de plus en plus que nous sommes dans une situation totalement contemplative devant les gestes, les moments quotidiens d'un village, puis une situation de fiction qui est non pas jouée mais présentée par ces joueurs, par ces modèles qui ont un minimum de gestes à interpréter ou à représenter, qui présentent essentiellement leur vie quotidienne, que ce soit en contre-champ du camion haut-parleur ou dans des mouvements extrêmement simples, des réactions extrêmement simples aux événements les plus brutaux. Et un troisième moment qui est le moment de proclamation de rigueur dans un film de 1942, bien entendu, qui est, comme je l'ai dit, cet appel à une unité internationale des ouvriers ou des travailleurs, qui est un moment certes obligé, et en même temps un moment obligé qui arrive qui arrive au bout de quelque chose qui n'a rien d'héroïque, où il n'y a pas d'héroïsation. Voilà, bon, c'est en quoi le film, peut-être plus que son aspect détour dans le temps ou l'espace, me paraissait intéressant sur les questions posées par l'attitude documentaire. Peut-être quelque chose qui avait à voir avec le bagage d'historien, de littéraire et de surréaliste de Jennings. pour qui la guerre était une sorte de révélateur. Il le dit à un moment, et tous ses commentateurs, c'est une des choses qui a été le plus commentée dans la leçon critique sur lui, qui était le fait que la guerre était un moment de révélation pour lui, qui lui permettait de découvrir des choses qu'il cherchait depuis que son activité de peintre ou de créateur ou d'artiste avait commencé. Je pense que c'était à peu près ce que je voulais dire sur ce film. Et finalement, le deuxième film que je voulais vous montrer, qui se raccordait à celui-ci par l'aspect uchronie dont je parlais tout à l'heure, pose à peu près les mêmes questions, c'est-à-dire qu'on est chez un cinéaste qui est réputé comme un maître du documentaire, donc Chris Marker. Qui est classé à peu près partout comme cinéaste de documentaire et dont le travail s'éloigne au point qu'on a cherché un autre on a commencé par chercher une deuxième étiquette à lui coller, donc on a trouvé celle, enfin André Bazin a trouvé celle d'auteur de film essai, d'essayiste du cinéma, et étiquette qui lui a collé depuis une cinquantaine d'années. On considère que Chris Marker est l'auteur et le fondateur, non pas le père du documentaire comme Flaherty, mais le père du film essai. Mais malgré tout, les habitudes étant trop fortes, ou les automatismes étant trop forts, généralement, je pense qu'on trouve plutôt Marker dans des histoires consacrées au documentaire, et il est extrêmement rare qu'on le commente comme un cinéaste de fiction. On commente comme une fiction un film, et la leçon admise est généralement qu'il a fait un film de fiction qui est La Jetée, et que son deuxième film de fiction serait L'Ambassade, celui que nous allons voir, ce film de tourner en 1973. Alors, est-ce exact? Est-ce que vraiment on ne peut pas parler de fiction ailleurs chez Marker? On peut se le demander. On peut déjà énumérer un certain nombre de choses. La deuxième partie du Joli Mai, qui est sans doute le seul film de Marker qui obéisse aux règles officielles du cinéma vérité ou du cinéma direct commençant, sans doute le seul de ces films entièrement tourné en son direct, pour ne prendre qu'un exemple. La deuxième partie s'appelle Le Retour de Fantomas. Son film Le Mystère Kumiko commence par un hommage à la famille Fenouillard. Alors, Sans Soleil est un cas particulier, un peu plus tard, donc après 9 ans, 10 ans après L'Ambassade. Sans Soleil est considéré généralement comme un documentaire ou un film essai ou comme un film de non-fiction. J'ai beaucoup de mal à comprendre, puisqu'il s'agit des lettres fictives d'un opérateur de cinéma, oui, d'un caméraman fictif et d'une voix qui lit ses lettres et qui les commente. Ces procédés de fiction, s'il en fut, ou procédés partant peut-être d'une attitude documentaire, alors ce qui nous rapprocherait de Jennings, pour amener un procédé de fiction. Il y en a d'autres. Il y a 2084, tourné comme son nom l'indique en 1984, et qui, comme son nom l'indique également, est un film de futuriste, donc une science-fiction. Il y a également In Memory, dont on peut dire que c'est la réflexion d'une femme devant des images, mais on peut difficilement dire que son point de départ ne soit pas un point de départ fictif, et que le récit, si on essaie de résumer le récit, ne soit pas un récit de fiction. Il est assez difficile de démêler le vrai du faux. chez Marker, dans son CD-ROM In Memory, il y a une autobiographie assez nourrie du narrateur de ce CD-ROM, narrateur qui est désigné comme un personnage de fiction à la fin. Mais il n'empêche que des amis allemands, soyons délateurs tout de suite, sont venus me voir en me disant « c'est extraordinaire, je ne savais absolument pas que Chris Marker avait été élevé dans un séminaire à Cuba ». Ce qui est l'autobiographie qui est donnée à l'intérieur du CD-ROM, et j'ai eu un peu de mal à leur expliquer qu'il s'agissait d'une fiction et qu'il avait bien grandi à Neuilly comme tous les fouineurs ont pu retrouver, et comme d'ailleurs il le dit dans son film sur Simone Signoret, puisque à partir du moment où on est sûr de rien, rien n'empêche de dire la vérité. Voilà. Je verrai peut-être Marker. J'aurais peut-être dû passer des films de Wells ici. J'aurais peut-être dû passer F for Fake, qui aurait mieux expliqué ce qui me paraît déterminant chez Marker, à savoir que on ne vous dit pas tout et que les degrés de réalité, eh bien, il faut vous en débrouiller. Et il faut vous arranger avec qu'en effet il y a du documentaire, qu'en effet on vous dit la vérité pendant un certain temps, mais pas nécessairement n'importe quelle vérité, et qu'il faut à vous d'y aller chercher. Je vous rappelle que dans F for Fake de Wells, qui est titré Vérités et mensonges en français, il promet le narrateur, donc lui il y a aucun doute, le narrateur c'est bien Orson Welles, promet de dire la vérité pendant une heure et que la fin se termine dans une fiction absolument échevelée, au terme de laquelle il explique que c'était pendant une heure qu'il avait promis de dire la vérité et qu'ensuite il était libre de raconter l'histoire qu'il voulait. On est un petit peu, bon, on est dans le sujet d'ailleurs, selon un des nombreux livres sur Chris Marker existants, un des titres du film que nous allons voir était Le vrai et le faux, donc on n'est pas très loin de Wells, du titre français de Wells. Bon, voilà, je pense qu'on va voir le film. Il n'est que justice, grâce aux... J'en remercie les grévistes de Beaubourg, que le dernier film qui est projeté un peu par les hasards de la grève commence par une phrase qui répond très très directement au titre que j'avais choisi pour cette programmation. Mais je vous assure que ça n'était pas prévu. Bon, je ne vous en dis peut-être pas plus. On va voir le film qui est plus court, qui dure une vingtaine de minutes. Enfin, ceci n'est pas un film. Vous avez dit la première phrase. Bon, 1973, pour ceux qui ont vécu cette année, c'était le 11 septembre au Chili, et c'est évidemment le point de départ, la stimulation du film. Là-dessus, le catalogue d'Iskra est assez explicite. Dit dans l'ambassade anonyme d'un pays anonyme, des réfugiés politiques vivent les heures et les jours difficiles qui suivent un coup d'état militaire. Toute ressemblance avec des personnages et des faits réels serait évidemment pure coïncidence. Voilà. Donc c'est bon, là on est encore dans cette idée d'une chronique de l'histoire en train de se faire. Que dire d'autre ? Là où on se retrouve, là où je peux retomber sur mes pieds, évidemment, c'est sur le point sur le fait qu'on ne sait plus, c'est qu'on n'est pas dans, on est dans une impression de réalité constamment qui est en fin de compte mensongère. Je pense que ça n'est pas simplement la révélation finale qu'on pourrait difficilement prendre pour le retournement cher au court métrage ou aux nouvelles qui ne peuvent développer, qui ne peuvent mener une fiction à terme qu'au prix de ce type de pirouette, mais on est plutôt dans quelque chose qui se rapproche de l'étonnement qu'on a devant Vertigo, l'invraisemblable vérité, par exemple, de voir tout remettre à plat en remontant le film. Ce qui fait que le film est quelque chose qu'il faudrait voir une deuxième fois pour pouvoir le voir une première fois. Bon, c'est là la question n'est plus tellement du temps, mais de l'histoire et du temps. Quelque chose qui pourrait être un documentaire, qui pourrait être autre chose, il pourrait y avoir un mensonge de la vérité ou une vérité du mensonge qui passent leur temps à s'échanger. On est aussi près d'Ouel sans ce sens-là. Voilà, c'est la raison pour laquelle je suis finalement content que ce non-film puisse terminer la programmation. En dehors de ça, peut-être qu'on pourrait le reprendre d'une autre manière. Ça pourrait être, on pourrait le prendre par l'ambassadeur qui passe l'aspirateur, ou bien par la tortue. Ça serait d'autres manières, peut-être meilleures et plus fructueuses de le voir. Mais c'est une, à part ça, c'est une bonne conclusion. Maintenant, comme finalement il est relativement tôt. Peut-être que, contrairement à ce qu'on a fait les autres fois, il peut y avoir des interventions de la salle. Je suis désolé, j'ai pas beaucoup laissé parler d'autres jusque-là, mais il est évident que ça n'était pas du tout mon intention. Au contraire, j'aurais préféré être relayé. Donc si. Serait-ce même surtout même sur des lacunes dans ce que j'ai pu dire.
Ce que je dis n'a aucune importance, mais enfin, je me souviens effectivement d'avoir vu ce film anglais sur l'occupation allemande en Angleterre. C'est un film qui a été fait pendant la guerre. Et j'ai dû voir ce film, et j'aimerais beaucoup le revoir. Je ne sais pas comment faire. Je n'ai aucune information sur le réalisateur et tout. C'est ce genre de film qu'on voyait au ciné-club du Quartier Latin dans les années 49-50 et dont on ne savait pas toujours l'origine, parce que vous avez peut-être su que l'approvisionnement en film était un peu... Ça frisait le gangstérisme. Alors, nous avions des films, on ne savait pas très bien ce que c'était, mais c'est comme ça que on a vu La vie est à nous. C'était un des membres du ciné-club qui avait une copie de La vie est à nous, mais il ne savait pas ce que c'était. Il n'y avait pas de générique, rien du tout. Et il nous a sorti ça, puis on a dit, ah, mais c'est cette fameuse Vie est à nous qu'on n'avait jamais vue. Et il y avait ce film...
Vous pensez à celui-ci ou à un autre film?
À un autre film, dont vous avez parlé.
Oui, alors il y a un film de Cavalcanti.
Ah, c'est peut-être de Cavalcanti.
Il y a un film de Cavalcanti qui est en effet qui est en effet l'histoire d'un commando nazi occupant un village.
Un village d'Angleterre, oui.
Ouais. Donc il y a une espèce de mise en scène où on découvre petit à petit qu'il s'agit d'une intervention des nazis avec collaborateurs et résistants,
schéma,
et où la division s'installe assez vite. Alors la différence, évidemment, c'est un film du début de la guerre et c'est un film d'après Graham Greene. La différence, c'est que les Anglais sont divisés. C'est-à-dire qu'il y a des collaborateurs, ce qui fait que le film a été assez mal vu à l'époque.
Oui, oui, mais nous, ça nous a fait d'autant plus marrer qu'à la fin du film, il y a Jegoff qui est apparu, habillé en officier allemand.
Voilà la fameuse histoire.
Tu nous as fait le salut nazi. Et tu nous as dit, je n'aime pas du tout ce film. C'est assez, c'est assez curieux. C'est pour ça que je m'en souviens, d'ailleurs.
Oui, voilà.
Cette intervention de Jegoff. Bon,
c'est When the Day Well.
Ah bon.
Went to the World de Cameron Canty.
Comment le revoir?
Oh, mais ça.
Tâchez de m'en faire une copie.
Je pense que Tavernier a veillé à ce qu'il y en ait une édition DVD.
Ah, c'est parfait. Ça m'amuse. Voilà. À
si c'est un film anglais, comptez sur lui.
Ah bon.
Non, non, je suis à peu près sûr que ça existe.
Ah oui.
Ça doit se retrouver.
Je ne sais pas si c'est très bon.
Non, moi non plus.
C'est vraiment un souvenir vague. Parce que du temps a passé depuis. Bon.
Oui, ben ça a commencé par là, c'était Sinclair.
C'est pas un film cadet, c'est un truc qui s'appelle Fatherland, je vois d'abord.
Et on met Harris.
Comment?
Soit de Richard Harris.
Ah oui, c'est assez récent, oui, en effet. En effet, qui fait partie des Uchronies. Mais la première, ça s'appelait Impossible ici, et c'était Sinclair Lewis, traduit en français par Queneau. Ouais. Qui a été traduit avant guerre par Queneau, et qui était en effet l'histoire d'une prise de pouvoir du gouvernement américain par un groupuscule fascisant, raciste, etc. C'est un gros livre, assez ennuyeux, mais néanmoins bien traduit. Oui, je vois.
Non, mais c'est un sujet. La chose était esquissée. Oui, au moment où
ils ont gagné la guerre.
Oui, ils ont gagné. Si on avait gagné la guerre, c'est l'édition.
Ok, on est trop.
Et puis alors, ils chantent là. Ils se mettent à chanter. Alors, si on avait gagné la guerre.
Certes. En effet. Bien. Bernard Cohn, attends le micro quand même, tu ne veux pas être...
Je dis, ça sert à rien. Oui, il y a un film d'un réalisateur très célèbre qui a toujours refusé qu'on le montre, son film, et que je n'ai jamais vu, moi, que j'aimerais bien voir un jour, qui est « Cela n'arrivera jamais ici » de Bergman, qui est un petit peu, d'une certaine façon, le même sujet. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots?
Plus... Non, non, c'est une histoire d'espionnage beaucoup plus classique. C'est une histoire d'espionnage assez classique. Cela n'arriverait pas ici. C'est pas situé dans un autre possible. C'est une intrigue à Stockholm, je crois, et où il y a un mélange d'une intrigue policière d'espionnage. Donc ça relève plutôt de la paranoïa de guerre froide que de l'Uchronie. Il n'y a pas de, c'est simplement l'idée qu'il puisse y avoir des espions, qu'il puisse y avoir une conspiration à l'intérieur du pays. Mais enfin, c'est à peu près ce que pouvait faire Hitchcock à la même époque, ou ce que pouvaient faire des réalisateurs un peu dans le monde entier à la même époque, dans ces années de guerre froide. Disons, l'ennemi est au sein de notre vie quotidienne. Et pas, bon, enfin, pour autant que Je l'ai vu sans traduction, donc je ne garantis pas, mais je pense que c'est vraiment ça, que c'est le, il n'y a que le titre qui évoque cette torsion de l'histoire. Voilà. Voilà. Y a-t-il d'autres? J'ai pas été très loquace sur le film de Marker, qui me paraît un film très très passionnant, mais c'est. Si d'autres souhaitent en parler, sinon souhaitent le voir une deuxième fois, et nous pouvons.
Oui, il y a un autre film aussi, c'est Les Chinois à Paris que j'en regarde.
En effet. En effet. C'est absolument une. On a ici le point de départ d'une autre programmation. Voilà. Non, mais je l'avais proposé à Bologne et ils l'ont pas faite malheureusement, mais les films soviétiques sont particulièrement remarquables de ce point de vue-là, avec en effet ce film anglais. Voilà, bon, je crois que s'il n'y a pas d'autres remarques, réflexions, objections, injures, on peut arrêter. Je remercie ceux qui sont venus... avec régularité et également les autres.